Caïman, un territoire sacrifié. Le web documentaire publié par France Liberté met en lumière les conséquences environnementales et humaines du troisième plus grand réservoir de déchets miniers du monde, implanté il y a 10 ans au centre du Chili, dans la province du Choapa. Bonjour Elif Caracartal.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue et documentariste, c'est vous qui avez réalisé ce parcours numérique. Alors nous avons vu avec vous la semaine dernière l'histoire de ce projet et l'impact qu'il cause à l'environnement. Mais les populations locales subissent aussi les retombées néfastes de ce réservoir dans leur vie quotidienne.
Bien sûr. Alors, outre le danger, il y a quand même aussi quelque chose lié au danger, c'est cette angoisse. Hein. Moi, j'ai vécu un an à Caïman, et je peux vous dire que dès qu'il y avait une petite secousse, il y a des secousses fréquentes, hein, de secousses sismiques, des petits tremblements de terre fréquents au Chili, on est terrorisés. Hein. Ça signifie déjà vivre dans une sorte d'angoisse quotidienne par rapport à un danger potentiel. En plus de cela, pour s'implanter sur les territoires, l'entreprise minière a utilisé des stratégies pour essayer d'empêcher les résistances et donc souvent de diviser la population, c'est-à-dire de favoriser par exemple ou par des projets certains habitants et pas d'autres. Et donc elle s'est implantée vraiment en créant des zizanies locales. En plus de cela, Caïman était une vallée où il y avait essentiellement des éleveurs, agriculteurs aussi, mais on vivait beaucoup du fromage de chèvre. Et donc l'entreprise minière, en s'implantant en amont, a bloqué aussi le cours des eaux. Et donc il y a eu beaucoup moins d'eau, donc tarissement de la rivière et des influents. Les agriculteurs ont dû, pour la plupart, cesser leur activité. Donc on a vraiment un bouleversement total de l'économie, alors du social avec la destruction des liens sociaux entre les habitants et de l'économie avec les activités traditionnelles qui disparaissent.
Alors ces populations locales se sont organisées pour résister au projet. Aujourd'hui, que vivent-elles? Comment agissent-elles?
Alors oui, effectivement, depuis le début du projet, donc depuis le début des années 2000, ça a été une lutte de longue haleine pour résister. Une caractéristique de cette lutte, c'est qu'elle a été toujours très pacifique. Et ça m'a toujours frappée de voir cette idée de cette importance du respect d'une lutte qui se situe dans le domaine du droit. Et donc pas, par exemple, avec des actes de sabotage, mais vraiment d'essayer de lutter avec des moyens corrects. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que la communauté est toujours en résistance. Donc ça fait 14 ans que les gens sont en lutte. Au départ, cette lutte était pour faire en sorte que le projet ne se fasse pas. Alors aujourd'hui, qu'en est-il alors que le réservoir de déchets miniers s'est implanté, a commencé à fonctionner en 2008, qu'il contient 2 milliards de tonnes de déchets miniers, donc c'est énorme. Donc ce serait difficile aujourd'hui d'enlever ce réservoir de déchets miniers. En revanche, les gens avaient demandé au moins d'être en sécurité, c'est-à-dire qu'il y ait une mise en sécurité des zones qui risquent d'être rasées en cas de déferlement des déchets miniers. Par exemple, qu'on rehausse les parties du village, qu'on reconstruise des habitations au-dessus de la ligne rouge, hein, la ligne zone à risque. Ils avaient notamment déplacé l'école. Les habitants aussi souhaitaient qu'on leur fournisse une eau propre qui vienne de la cordillère à des hauteurs, des montagnes, qu'il soit pas une eau, par exemple, désalinisée ou qu'il soit pas une eau industrielle, mais qui arrive vraiment de sources naturelles. Ils avaient d'ailleurs gagné en justice pour cela. Donc il y avait certaines, au moins des aménagements hein, qui étaient possibles et la lutte se situait à ce niveau-là. Pour d'autres habitants aussi, pour lesquels il était impossible de continuer à vivre dans cette communauté, parce que vivre sous ce réservoir de déchets miniers, c'est donc un danger potentiel. Et pour nombreux habitants, la solution était de partir. Donc il y avait un certain nombre de revendications minimum de la population.
Alors vous parlez de zones de sacrifice, de dépendance économique et même de logique coloniale. On en est là? Qu'est-ce que cela veut dire?
Alors oui. Ce qu'on montre un peu dans le webdoc, c'est qu'effectivement, il y a un revers de ce développement minier. Derrière ça, donc, on a des territoires. On appelle ça des zones de sacrifice parce qu'en fait, en s'implantant sur ce territoire, il y a d'abord un impact sur les ressources naturelles. On a parlé de l'eau, la mise en danger et finalement de la destruction des activités, disparition des activités traditionnelles. Et finalement, ça devient des enclaves, enfin des zones comme Caïman deviennent des communes, des territoires qui vont dépendre. Là donc, comme les emplois traditionnels ont disparu à Caïman, les emplois qui restent maintenant sont liés à l'entreprise minière. C'est-à-dire que tout devient lié au développement minier. Quand le réservoir de déchets miniers va se fermer, on ne sait pas ce qui va se passer à Caïman. Donc il va rester une zone où les activités agricoles ne seront plus permises, et enfin ne seront plus possibles, et où finalement il n'y aura plus rien. Donc c'est vraiment un territoire qui est sacrifié parce qu'il ne peut plus exister en dehors du réservoir de déchets miniers. Et alors pourquoi on rapproche là d'une logique coloniale ? D'abord parce que il s'agit toujours d'un modèle des pays primo-exportateurs, c'est-à-dire qu'on base le développement des pays sur l'exploitation d'une ressource naturelle qui va être exportée et donc qui ne va pas permettre au pays de se développer de manière autonome puisqu'il va toujours dépendre. On dépend des agents qui vont acheter. Donc on reste toujours sur le même modèle. Hein. C'est pour ça qu'on parle de logique coloniale.
Et ce parcours numérique conçu comme un documentaire est aussi un outil de sensibilisation de ce que vivent les populations du Chili pour d'autres régions du monde confrontées au même type de projet. Cette chronique d'un territoire sacrifié est à retrouver sur le site uneseuleplanète.org et sur france-liberté.org. Merci Elif Caracartal.
Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup.
Monde solidaire à retrouver sur ecolodio.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.